« Ont-elles avoué ?» demanda Thierry d'Hirson, toujours regardant par-dessous ses paupières.
« Je ne sais, » répondit Robert. « Mais les jeunes d'Aunay sont en ce moment en train d'avouer pour elles, entre les mains de votre ami Nogaret. »«
Mon ami Nogaret, » répéta lentement Thierry d'Hirson. « Serait-elle innocente ? Avec lui, elles sortiront plus noires que la poix. »«
Ma tante, » reprit Robert. J'ai fait en pleine nuit les 10 lieues de Pontoise à Paris pour venir vous avertir, car personne ne songeait à le faire. Croyez-vous encore que ce soit de mauvais sentiments qui m'amènent ?
Mao observa son neveu un instant, et dans le drame où elle se trouvait, pensa « Peut-être est-il capable parfois d'un bon mouvement ?» Puis, d'un ton bourru, elle lui dit
« Veux-tu manger ?»
À ce seul mot, Robert comprit qu'elle était vraiment frappée. Il saisit sur la table un faisan froid qu'il rompit en deux, avec les mains, et dans lequel il commença de mordre. Soudain, il vit sa tante changer étrangement de couleur. D'abord, le haut de sa gorge, au-dessus de la robe bordée d'hermine, devint rouge écarlate, puis le cou, puis le bas du visage. On voyait le sang lui envahir la face, atteindre le front et le faire virer au cramoisi. La comtesse Mao porta la main à sa poitrine.
« Nous y sommes, » pensa Robert. « Elle en crève. Elle va crever. »
Il fut bientôt déçu. Car la comtesse se dressa, balayant d'un grand geste du bras pâté de lièvre, timbales et plats d'argent qui allaient rouler au sol avec fracas.
« Les garces ! » hurla-t-elle. « Après tout ce que j'ai fait pour elles, après les mariages que je leur ai arrangés, se faire pincer comme des ribaudes, eh bien qu'elles perdent tout, qu'on les enferme, qu'on les empale, qu'on les pende !»
Le chanoine chancelier ne bougeait pas. Il avait l'habitude des fureurs de la comtesse.
« Voyez-vous, c'est tout juste ce que je pensais, ma tante, » dit Robert, la bouche pleine. « C'est bien mal vous remercier de toute votre peine. »« Il faut que j'aille à Pontoise sur l'heure, » dit Mao, sans l'entendre. « Il faut que je les voie et leur souffle ce qu'elles doivent répondre. »«
Je doute que vous y parveniez, ma tante. Elles sont au secret et nul ne peut. »«
Alors je parlerai au roi. Béatrice, Béatrice, » appela-t-elle.
Une tenture se souleva. Une grande fille d'une 20aine d'années, brune, la poitrine ronde et ferme, la hanche marquée, la jambe longue, entra sans se presser. Dès qu'il l'aperçut, Robert d'Artois se sentit de l'appétit pour elle.
« Béatrice, tu as tout entendu, n'est-ce pas ? » demanda Mao.
« Oui, madame, » répondit la jeune fille d'une voix un peu narquoise qui traînait sur la fin des mots. « J'étais derrière la porte, comme de coutume. »
Cette curieuse lenteur qu'elle avait dans la voix, dans les gestes, elle l'avait aussi dans la manière de se déplacer et de regarder. Elle donnait une impression de mollesse onduleuse et d'anormale placidité, mais l'ironie lui brillait aux yeux, entre de longs cils noirs. Le malheur des autres, leur lutte et leur drame devaient sûrement la réjouir.
« C'est la nièce de Thierry, » dit Mao à Robert, en la désignant. « J'en ai fait ma première demoiselle de parage. »
Béatrice d'Hirson dévisageait Robert d'Artois avec une sournoise impudeur. Elle était visiblement curieuse de connaître ce géant dont elle avait tant entendu parler comme d'un être malfaisant.
« Béatrice, » reprit Mao, « fais atteler ma litière et scelle 6 chevaux, nous partons pour Pontoise. »
Béatrice continuait de regarder Robert dans les yeux, et l'on eût pu croire qu'elle n'avait pas écouté. Il y avait chez cette belle fille quelque chose d'irritant et de trouble. Elle établissait avec les hommes, dès le premier abord, une relation d'immédiate complicité, comme si elle ne devait leur opposer aucune résistance. Mais en même temps, elle leur faisait se demander si elle était complètement stupide ou si elle se moquait paisiblement d'eux.
« Belle gueuse, j'en ferai bien mon passe-temps d'un soir, » pensa Robert tandis qu'elle sortait sans hâte.
Du faisan, il ne restait qu'un os qu'il jeta dans le feu. À présent, Robert avait soif. Il prit sur une crédence l'aiguière dont Mao s'était servi et se versa une grande rasade dans la gorge. La comtesse marchait de long en large, retroussant ses manches.
« Je ne vous laisserai pas seule de ce jour, ma tante, » dit d'Artois. « Je vous accompagne, c'est un devoir de famille. »
Mao leva les yeux vers lui, encore un peu soupçonneuse, puis elle se décida enfin à lui tendre les mains.
« Tu m'as été souvent à nuisance, Robert, et je gage que tu me le seras encore, mais aujourd'hui, je dois le reconnaître, tu te conduis comme un brave garçon.